Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, les grands personnages, c'est d'abord Saint Léon le Grand, ce grand pape qui est devenu pape en l'an 440, au moment où l'Empire de Rome s'effondrait. D'autre part, on célèbre dans l'Église, parfois dans certains milieux, la fête de Saint Noé. Savez-vous que Noé est considéré par bien des chrétiens comme un saint? Mais je n'en parlerai que l'an prochain parce que c'est très compliqué l'histoire de Noé et puis toutes les textes qui nous racontent le déluge. Ça peut être très intéressant, mais je ferai ça plutôt l'an prochain. Il y a aussi quelqu'un d'extraordinaire qui est mort à cette date-ci et j'aurais bien voulu vous en parler, qui me fascine. C'est un missionnaire en Chine qui est mort en 1737, Claude Videloux. Je vous en parlerai une autre fois. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelqu'un qui a enchanté mon enfance, qui me semblait bien mystérieux. Quand on étudiait ça au collège, Brébeuf, au début des années 40, c'est Arthur Rimbaud. Ce poète génial, phénoménal, qui nous fait penser évidemment à Émile Nalégan, et dont le génie littéraire est absolument fantastique. Vous savez qu'il n'a écrit que durant 3 ans, de l'âge de 16 ans, en fait, jusqu'à 19 ans. Et c'est tellement extraordinaire que j'ai bien hâte de vous en parler. Et je voudrais vous en parler aussi pour réhabiliter Arthur Rimbaud, qui n'est considéré que comme un poète, pour ainsi dire, païen. Il n'est pas qu'un poète païen. Vous le verrez, vous serez étonnés. Et je voudrais vous raconter sa vie parce que ça peut nous encourager, nous les parents qui avons des enfants qui nous créent bien des problèmes, qui semblent éloignés de la foi que nous avons. Et au cœur des gens les plus éloignés, il y a souvent une telle richesse spirituelle qui est comme enfouie et cachée, qui n'arrive pas à s'exprimer. Et chez Arthur Rimbaud, elle s'est exprimée au début et elle s'est exprimée durant les derniers jours de sa vie. On a les témoignages, je les ai trouvés dans les œuvres complètes d'Arthur Rimbaud, publiées dans la collection de la Pléiade en 1954. Et j'ai lu au complet ce bouquin merveilleux. C'est extrêmement intéressant et j'en ai détaché des choses qui vous plairont. Je commence donc avec Arthur Rimbaud. Et nous terminerons par ce grand pape, Saint Léon le Grand, dont c'est la fête aujourd'hui dans l'Église. C'est en 1854 qu'est né Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, le 20 octobre, à Charleville, chez son grand-père maternel qui s'appelait Nicolas Cuif. Son père s'appelait Frédéric Rimbaud. C'était un capitaine d'infanterie. Et sa mère avait ce joli prénom de Vitalie, Vitalie Cuif, qui était fille de petits propriétaires agriculteurs dans les Ardennes. En 1865, on le retrouve en classe de 7e au collège de Charleville. Il entre au collège. Vous savez, la 7e, c'est le début. Et quand on monte en 6e et ensuite en 5e. Je l'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas la façon européenne ou française de nommer les classes. Et alors donc, il est au collège de Charleville après des vacances de Pâques. Il passe en 6e en octobre assez rapidement et brillant. D'ailleurs, c'était un premier de classe en toute matière. Et quelques mois plus tard, il fait sa première communion. Sa maturité d'esprit amène ses professeurs à le dispenser des cours de 5e. Il va vite. Et en octobre 1866, donc un an et demi après son entrée en 7e, il est déjà en 4e. Ça va vite, extrêmement vite. Il est extrêmement brillant. En 1868, vers l'âge de 14 ans, quoi, ou presque, Rimbaud adresse, dans le plus grand secret, une lettre en vers latin. Imaginez, en vers latin, 60 hexamètres, au prince impérial, le fils de Napoléon III, à l'occasion de sa première communion qui s'est faite le 8 mai. Donc, il n'avait pas 14 ans. Et le précepteur du petit prince, Auguste Filon, charge le principal du collège de l'en remercier publiquement de la part de son élève, le prince impérial. L'année suivante, Arthur Rimbaud, futur auteur des Illuminations, étonne ses condisciples et ses professeurs par la virtuosité avec laquelle il compose des vers latins. C'est absolument génial, hein? Ça rappelle ces musiciens qui nous composent des choses absolument phénoménales à l'âge de 8-10 ans. Et c'est un mystère que le cerveau humain. Quelle étrange création de Dieu. Un journal, le Moniteur de l'enseignement secondaire, publie successivement trois compositions en vers latins de Rimbaud au cours de l'année 1869. Et la troisième, qui est intitulée Jugurtha, obtient, à son auteur, le premier prix au concours académique, classe de seconde. Et d'autre part, l'année 1869 est marquée par la composition des premiers vers français que nous connaissons de lui, les étrennes des orphelins. Il les adresse à la Revue pour tous, qui les publie dans son numéro du 2 janvier 1870. Ces textes, il nous en est resté quelques-uns. Je vous lis un beau texte, assez étonnant. C'est en latin, je ne vous lis pas en latin, je vous lis dans la traduction française. Il a écrit ça alors qu'il était en rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique pour nous, vers l'âge, donc, de 16 ans. En ce temps-là, Jésus habitait Nazareth. C'est intitulé « Jésus à Nazareth ». En ce temps-là, Jésus habitait Nazareth. L'enfant croissait en vertu comme il croissait en âge. Un matin, quand les toits du village se mirent à rosir, il sortit de son lit alors que tout était en proie au sommeil pour que Joseph, en se levant, trouvât le travail terminé. Déjà penché sur l'ouvrage commencé, le visage serein, poussant et retirant une grande scie, il coupait maintes planches de son bras d'enfant. Au loin apparaissait le soleil brillant sur les hautes montagnes, et son rayon d'argent entrait par les humbles fenêtres. Voici que les bouviers mènent au pâturage leurs troupeaux. Ils admirent à l'envi en passant le jeune ouvrier et les bruits du travail matinal. « Qui est cet enfant ?» disent-ils. « Son visage montre une beauté mêlée de gravité. La force jaillit de son bras. Ce jeune ouvrier travaille le cèdre avec art comme un ouvrier consommé. » Or, sa mère, entendant grincer la lame de la scie, avait quitté son lit et, entrant doucement en silence, elle aperçoit inquiète l'enfant, peinant dur et manœuvrant de grandes planches. Les lèvres serrées, elle regardait. Et tandis qu'elle l'embrasse d'un regard tranquille, des paroles inarticulées tremblaient sur ses lèvres. Le rire brillait dans ses larmes. Mais tout à coup, la scie se brise et blesse les doigts de l'enfant qui ne s'y attendait pas. Sa robe blanche est tachée d'un sang pourpre. Un léger cri sort de sa bouche. Apercevant soudain sa mère, il cache ses doigts rougis sous son vêtement. Et faisant semblant de sourire, il lui dit « « Bonjour, mère. » Mais celle-ci, se jetant aux genoux de son fils, caressait hélas ses doigts, et baisait ses tendres mains, en gémissant fort et baignant son visage de grosses larmes. Mais l'enfant, sans s'émouvoir, « Pourquoi pleures-tu, mère, qui ne sais pas, parce que le bout de la scie tranchante a effleuré mon doigt ? Le temps n'est pas encore venu où il convienne que tu pleures. » Il reprit alors son ouvrage commencé, et sa mère, en silence et toute pâle, tourne son blanc visage à terre, réfléchissant beaucoup, et de nouveau, portant sur son fils ses yeux tristes, « Grand Dieu, que ta sainte volonté soit faite. » C'est un poème de jeunesse, mais c'est un poème quand même Tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. En 1870, cette année-là marque l'éveil véritable du génie poétique d'Arthur Rimbaud, qui compose pendant les 12 mois de l'année les 22 pièces du recueil de Meunier. Il entre en rhétorique et se lie d'amitié avec Georges Isambard, jeune professeur aux idées révolutionnaires, qui devient son confident. Georges Isambard lui fait lire Rabelais, Victor Hugo. Le 24 mai 1870, Rimbaud envoie à Banville « Sensation, Ophélie » et « Credo in unam », intitulé plus tard « Soleil et chair ». Ce n'est pas très religieux, ça. Dans l'espoir, il veut que ces vers paraissent dans une série très importante qui s'appelle « Parnasse contemporain ». Le Parnasse était un groupe de poètes très réputés à l'époque. Et je crois que le principal était José María de Heredia, que mon père aimait beaucoup lire. Mais c'était trop tard. On ne recevait plus de copies. Alors, il est plus heureux avec un journal satirique hebdomadaire qui publie Première soirée. Et le poète enfant remporte cette année-là encore plus de succès. Des succès universitaires même. Et au milieu de l'été, la guerre éclate. Et la France va perdre la guerre. Et le 29 août, Rimbaud vend ses livres de prix, prend un billet pour Charleroi, mais reste dans le train jusqu'à Paris. Et il espère assister à la chute probable du gouvernement impérial. Et à son arrivée, il est redevable de la compagnie de la somme de 13 francs. Il doit 13 francs. Il est incarcéré. Alors, son ami Isambard le fait délivrer. Il le recueille à Douai, vous savez, sur la Manche, là. Alors, il retourne à Charleville et 10 jours après, il s'en échappe à nouveau. Et toute sa vie va être marquée comme ça. Je ne vous la raconterai pas, mais c'est juste pour vous donner une idée de ses voyages interminables, de ses fuites en avant constantes. Il part à pied vers la Belgique avec l'espoir de se faire engager par la rédaction d'un journal à Charleroi. Alors, c'est une vie très, 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 très compliquée après sa disparition à 19 ans, quand il termine ses écrits. Mais il écrit, là, à Charleroi, la Maline, au Cabaret Vert, le Buffet, ou etc., Ma Bohème aussi. Il est déçu dans ses ambitions de journaliste. Il va jusqu'à Bruxelles. Et finalement, il retrouve son professeur, et là, il compose d'autres choses, dont le Dormeur du Val, poème qu'on apprenait quand nous étions jeunes. Et Mme Rimbaud, avertie, le fait revenir à Charleville. Il assiste alors là au bombardement, tout près de Charleville. Je vous lis donc le Dormeur du Val, ça rappellera des souvenirs à bien des gens. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Ça, c'est écrit en octobre 1870. Il a 16 ans. Et c'est un des plus beaux poèmes de la littérature française. Il y a une crise violente en 71. Une crise violente d'anticléricalisme et d'antichristianisme. Il est tout jeune mais révolté. Comme aujourd'hui, il y en a tellement. Vous qui avez des enfants révoltés à 16-17 ans, pensez qu'Arthur Rimbaud était comme ça. Et vous verrez plus tard, vous verrez tout à l'heure. Alors il interpelle les prêtres dans la rue. Il écrit, je n'ose pas le dire, des blasphèmes à Dieu, à la craie, sur les bancs. Au collège. Il écrit un poème qui s'appelle « Les premières communions », qui était sans doute inspiré par un événement de famille. Probablement la première communion de sa sœur Isabelle à l'église paroissiale de Notre-Dame. Et c'est terrible. Le 15 août, il envoie à Banville ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, un poème curieux. Et à Charleville, Rimbaud se complaît dans la Société de Bretagne, employé aux contributions indirectes. Il est épris de poésie, d'occultisme. Et c'est là qu'il connaît Verlaine, et ce sera un drame pour lui. Bretagne, qui est quelqu'un, évidemment, qui est employé aux contributions indirectes, propose à Rimbaud de le mettre en rapport avec Verlaine. Et le jeune poète accepte avec enthousiasme, parce que c'est un grand poète, Paul Verlaine. C'est un poète qui se convertit, qui devient un très grand chrétien, Paul Verlaine. Or, Verlaine, après avoir lu les vers que Rimbaud lui a fait parvenir, écrit à leur auteur, « Venez, chère grande âme, on vous attend, on vous désire. » Et à la fin de septembre 1871, Rimbaud, qui est tout jeune, emportant ses poèmes et parmi eux, le bateau ivre, arrive à Paris. Il loge d'abord chez les beaux-parents de Verlaine, en compagnie de Verlaine et de sa femme. Et en 1872, année suivante, Rimbaud et Verlaine passent ensemble leur journée et une partie de leur nuit dans les cafés du quartier latin. Et des scènes éclatent à ce propos entre Verlaine et sa femme. Et en janvier 1872, Rimbaud va habiter avec Forain, dont je vous ai déjà parlé, Jean-Louis Forain, rue Campagne Première. C'est un autre converti, Forain. Vous savez, les païens souvent se convertissent. Les gens qui quittent l'Église reviennent en force. Il faut garder de l'espérance et il faut prier pour leur bonheur. Et peu de temps auparavant, Banville avait logé dans une... Rimbaud dans une mansarde. Rue de Bussy. Et le 7 juillet 1872, Rimbaud décide de partir en Belgique et Verlaine abandonne sa femme pour le suivre. Et c'est le drame. Et de Belgique, il passe en Angleterre. Bientôt, les deux poètes manquent d'argent et Verlaine est hanté par le souvenir de sa femme. Il souffre du procès en séparation de corps qu'elle lui intente. Rimbaud le quitte brusquement et retourne à Charleville, car au fond de son cœur, il se sent malhonnête d'avoir arraché cet homme à sa femme. Et c'est au cours de cette année 1872 que l'on a qualifié d'explosive par rapport aux manifestations du génie de Rimbaud, que Rimbaud a commencé, d'autre part, à écrire ses illuminations en prose auxquelles il n'avait donné lui-même aucun titre collectif et qu'il désignait simplement sous le nom de poèmes en prose. Les illuminations, c'est un des textes les plus étonnants qui soit dans la littérature française. Ce sont en somme des pièces en vers que Verlaine a publiées en 1886 avec des poèmes en prose de Rimbaud. C'est lui qui leur a donné le titre de « Les Illuminations ». J'ai retrouvé dans « Les Illuminations » un bref passage. C'est Arthur Rimbaud qui écrit « Je suis le saint en prière sur la terrasse ». Comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine. C'est assez étonnant. Il écrit de très, très belles choses. Il écrit aussi une suite qu'on appelle la suite joannique. C'est en rapport avec l'évangile de Saint Jean, certains chapitres de Saint Jean. Je ne vous en lis que de brefs passages. Les femmes et les hommes croyaient aux prophètes. Maintenant, on croit à l'homme d'État. C'est pas bête. Et vers la fin de ce bref suite joannique, c'est écrit « La piscine de Bethsaïda ». Vous savez, cette piscine où Jésus a fait un miracle, a guéri un paralytique. « La piscine de Bethsaïda, la piscine des cinq galeries, était un point d'ennui. Jésus entra aussitôt après l'heure de midi. » La lumière dans la piscine était jaune comme les dernières feuilles des vignes. Le divin maître se tenait contre une colonne. Il regardait les fils du péché. Le démon tirait sa langue en leur langue et riait au monde. Un paralytique se leva, qui était resté couché sur le flanc, franchit la galerie et ce fut d'un pas singulièrement assuré qu'ils le virent partir et disparaître dans la ville. Il s'intéressait à l'évangile de Saint Jean. Il s'est intéressé à ce qui avait marqué vraiment son enfance. En janvier 1873, Verlaine tombe malade à Londres et exagère quelque peu son état pour exciter la pitié de sa mère et celle de Rimbaud. Madame Verlaine, mère, arrive à Londres. Elle envoie à Rimbaud l'argent nécessaire pour le voyage et celui-ci se rend à Londres, mais il refuse d'y rester. Après la guérison de son ami, il rejoint sa famille aux environs de Vouziers, puis commence à composer une saison en enfer. Voici de beaux textes d'une saison en enfer. L'Esprit, dans le sens de l'Esprit Saint, l'Esprit est proche. Pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas en donnant à mon âme noblesse et liberté? Hélas, l'Évangile a passé. L'Évangile. J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. C'est sublime, c'est très beau, c'est le cri d'un incroyant. Il écrit plus loin dans Une saison en enfer, « Je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse, ici-bas pourtant, des profundis dominés. Suis-je bête ?» Et j'ai trouvé plus loin de beaux textes encore. « Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien publique. L'amour divin seul octroie les clés de la science. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu, chimère, idéal, erreur. Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur. C'est l'amour divin. » Plus loin, il écrit, « La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance, ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force et je loue Dieu. » Et il ajoute, « Si Dieu m'accordait le calme céleste aérien, la prière, comme les anciens saints, les saints, des forts, les anachorètes, des artistes comme il n'en faut plus. Ah, farce continuelle, mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce amenée par tous. » Et dans Une saison en enfer, il écrit, « Fausse conversion, j'ai entrevu la conversion, le bien, le bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision? On n'est pas poète en enfer. » C'était un admirable concert spirituel, la force et la paix, les nobles ambitions et que sais-je. Et dire que je tiens la vérité, que j'ai un jugement saint et arrêté sur toute chose, que je suis tout prêt pour la faire perfection, que je deviens bête. Ô Marie Sainte Vierge, pourtant, faux sentiment, fausse prière. Je vous disais que dans Une saison en enfer, il avait écrit des choses aussi remarquables. En 73, il était en proie à un grand chagrin. Et Arthur Rimbaud, donc, s'enferme dans le grenier. C'est là qu'il termine la saison en enfer. Par ce livre, on dit que Rimbaud, qui n'a que 19 ans, achève le cycle de son évolution littéraire. Il n'écrira plus rien après ça. Il fait imprimer la saison en enfer à Bruxelles. Il adresse quelques exemplaires d'auteurs à ses anciens amis de Paris, puis il s'en désintéresse bientôt. Il ne se préoccupe plus du reste de l'édition que l'imprimeur a conservé. Dans l'attente de recevoir le prix de son travail, je lis dans Une saison en enfer ces belles paroles. J'ai un jugement saint et arrêté sur toute chose. Je suis tout prêt pour la perfection. Tais-toi, c'est l'orgueil. Je ne suis qu'un bonhomme en bois. La peau de ma tête se dessèche. Ô Dieu, mon Dieu, J'ai peur. Pitié. Ah, j'ai soif. Oh, mon enfance, mon village, les prés, le lac sur la grève, le clair de lune quand les clochers sonnaient 12 coups. C'est triste qu'un jeune homme aussi talentueux soit descendu en enfer, si on peut dire, durant presque toute sa vie. Au début de 1874, après donc avoir publié « Saison en enfer », Rimbaud, qui a définitivement renoncé à la littérature, passe par Paris. Il noue connaissance avec Germain Nouveau. Il part avec lui en Angleterre. Son intention est d'approfondir sa connaissance de l'anglais d'abord et plus tard celle de l'allemand afin de pouvoir ensuite faire de grands voyages. Ce qu'il fera toute sa vie. Pendant un an, il vit de leçons de français données dans divers collèges à Londres et en Écosse. Sa mère et sa sœur Vitalie passent le mois de juillet avec lui à Londres. Il est toujours près de sa mère, de sa sœur. Et pour faire court, je passe à travers toutes les années de 75 à 91. Je vous fais grâce de toutes ces aventures. En 91, en février, Arthur Rimbaud est atteint d'une tumeur au genou droit. Encore un autre qui est atteint à la jambe. Ça fait plusieurs fois qu'on rencontre des gens qui sont atteints à la jambe. Atteint à la jambe, il faut s'asseoir. Il faut réfléchir. Et le 15 mars, il ne peut plus se lever. Il doit liquider ses affaires. Et se faire transporter sur une civière jusqu'à Zeila, d'où il s'embarque pour Aden. Et le 9 mai, il se fait rapatrier. Il est hospitalisé à Marseille, à l'hôpital de la Conception. Je donne le nom parce que c'est intéressant. Il subit l'amputation de la jambe droite. Arthur Rimbaud retourne à Roche auprès de sa famille, toujours près de sa famille. La maladie continue à progresser malgré tout, et à la fin du mois d'août, Rimbaud, qui espère trouver une amélioration à son état dans le climat de la Méditerranée, bien, il reprend le train pour Marseille en compagnie de sa sœur Isabelle. Il entre à nouveau à l'hôpital de la Conception et son état ne cesse d'empirer. Et sur les sollicitations pressantes d'Isabelle, le poète Arthur Rimbaud, poète muet depuis si longtemps, accepte de recevoir la visite de l'aumônier, qui, après s'être entretenu seul avec lui, confie à la jeune fille « Votre frère a la foi, mon enfant. Que nous disiez-vous donc? Il a la foi. Et je n'ai même jamais vu de foi de cette qualité. » C'était le 10 novembre 1891. Arthur Rimbaud meurt à l'âge de 37 ans. Or, on a un très beau texte de sa sœur Isabelle, une lettre adressée à leur mère, la mère d'Arthur Rimbaud, sa mère, datée de Marseille, mercredi 28 octobre 1891. Donc, quelques jours avant la mort d'Arthur Rimbaud, 2 semaines avant, à peu près. Ma chère maman, Dieu soit 1000 fois béni. J'ai éprouvé dimanche le plus grand bonheur que je puisse avoir en ce monde. Ce n'est plus un pauvre malheureux réprouvé qui va mourir près de moi. C'est un juste, un saint, un martyr, un élu. Pendant le courant de la semaine passée, les aumôniers étaient venus le voir 2 fois. Ils les avaient reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait osé lui parler de la mort. Et samedi soir, toutes les religieuses firent ensemble des prières pour qu'il fasse une bonne mort. Et dimanche matin, après la grand-messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser. Et il a bien voulu. Et quand le prêtre est sorti, il m'a dit, en me regardant d'un air troublé, d'un air étrange, « Votre frère a la foi, mon enfant. » Que nous disiez-vous donc? Il a la foi, et je n'ai même jamais vu de foi de cette qualité. Moi, je baisais la terre en pleurant et en riant. Oh Dieu, quelle allégresse, même dans la mort, même par la mort. Que peuvent me faire la mort, la vie et tout l'univers, et tout le bonheur du monde, maintenant que son âme est sauvée? Oh Seigneur, adoucissez son agonie, aidez-le à porter sa croix, ayez encore pitié de lui, ayez encore pitié, vous qui êtes si bon. Oh oui, si bon. Merci, mon Dieu, merci. Quand je suis rentré près d'Arthur, il était très ému, mais ne pleurait pas. Il était sereinement triste, comme je ne l'ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux, comme il ne m'a jamais regardé. Il a voulu que je m'approche tout près. Il m'a dit, « Tu es du même sang que moi. Crois-tu, dis, crois-tu » J'ai répondu, « Je crois. D'autres plus savants que moi ont cru. Crois. Et puis, je suis sûr à présent. J'ai la preuve, cela est. » Et c'est vrai, j'ai la preuve aujourd'hui. Il m'a dit, encore avec amertume, « Oui, ils disent qu'ils croient. Ils font semblant d'être convertis. Mais c'est pour qu'on lise ce qu'ils écrivent. C'est une spéculation. » Alors j'ai hésité, puis j'ai dit, « Oh non, Arthur, il gagnerait davantage d'argent en blasphémant ?» Il me regardait toujours avec le ciel dans les yeux, et moi aussi. Il a tenu à m'embrasser, puis il a dit, « Nous pouvons bien avoir la même âme, puisque nous avons un même sang. Tu crois alors ?» Et j'ai répété, « Oui, je crois, il faut croire. » Alors il m'a dit, « Il faut tout préparer dans la chambre, tout ranger. Le prêtre va revenir avec les sacrements. Tu vas voir, on va apporter les cierges et les dentelles. Il faut mettre des linges blancs partout. Oh, je suis donc bien malade. » Il était anxieux, mais pas désespéré comme les autres jours. Et je voyais très bien qu'il désirait ardemment les sacrements, la communion surtout. Depuis, il ne blasphème plus jamais. Il appelle le Christ en croix et il prie. Oui, il prie, lui. Mais l'aumônier ne put lui donner la communion. D'abord, il a craint de l'impressionner trop, puis Arthur crachant beaucoup en ce moment et ne pouvant rien souffrir dans sa bouche, on a eu peur d'une profanation involontaire. Et lui, croyant qu'on l'a oublié, est devenu tout triste. Mais il ne s'est pas plaint. La mort vient à grands pas. Je t'ai dit dans ma dernière lettre, ma chère maman, que son moignon était fort gonflé. Maintenant, c'est un cancer énorme entre la hanche et le ventre, juste en haut de l'os. Ce moignon, qui était si sensible, si douloureux, ne le fait presque plus souffrir. Arthur n'a pas vu cette tumeur mortelle. Il s'étonne que tout le monde vienne voir ce pauvre moignon auquel il ne sent presque plus rien. Et tous les médecins, il en a déjà bien venu 10 depuis que j'ai signalé ce mal terrible, eh bien, il reste muet et terrifié devant ce cancer étrange. À présent, c'est sa pauvre tête et son bras gauche qui le font le plus souffrir. Mais il est le plus souvent plongé dans une léthargie qui est un sommeil apparent, pendant lequel il perçoit tous les bruits avec une netteté singulière. Pour la nuit, on lui fait une piqûre de morphine. Éveillé, il achève sa vie dans une sorte de rêve continuel. Il dit des choses bizarres très doucement d'une voix qui m'enchanterait si elle ne me perçait le cœur. Donc ce qu'il dit, ce sont des rêves. Pourtant, ce n'est pas la même chose du tout que quand il avait la fièvre. On dirait, et je crois, qu'il le fait exprès. Comme il murmurait ces choses-là, la religieuse m'a dit tout bas, « Il a donc encore perdu connaissance ?» Mais il a entendu et il est devenu tout rouge. Il n'a plus rien dit. Mais la sœur partie, il m'a dit, « On me croit fou. Et toi, le crois-tu ?»« Non, je ne le crois pas. C'est un être immatériel presque. Et sa pensée s'échappe malgré lui. Quelquefois, il demande aux médecins si eux voient les choses extraordinaires qu'il aperçoit. » Et il leur parle et leur raconte avec douceur en termes que je ne saurais rendre ses impressions. Les médecins le regardent dans les yeux, ses beaux yeux, qui n'ont jamais été si beaux et plus intelligents, et se disent entre eux, C'est singulier. Il y a dans le cas d'Arthur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les médecins, d'ailleurs, ne viennent presque plus, parce qu'ils pleurent souvent en leur parlant, et cela les bouleverse. Il reconnaît tout le monde. Moi, il m'appelle parfois Jamie, mais je sais que c'est parce qu'il le veut, et que cela rentre dans son rêve voulu ainsi. Au reste, il mêle tout, et avec art. Nous sommes au Harar, dans les déserts. Nous partons toujours pour Aden. Il faut chercher des chameaux, organiser la caravane. Il marche très facilement avec la nouvelle jambe articulée. Nous faisons quelques tours de promenade sur de beaux mulets richement harnachés. Puis il faut travailler, tenir les écritures, faire des lettres. Vite, vite! On nous attend. Fermons les valises et partons. Pourquoi l'a-t-on laissé dormir? Pourquoi ne l'aidais-je pas à s'habiller? Que dira-t-on si nous n'arrivons pas au jour dit? On ne le croira plus sur parole. On n'aura plus confiance en lui. Il se met à pleurer en regrettant ma maladresse et ma négligence, car je suis toujours avec lui. Et c'est moi qui suis chargé de faire tous les préparatifs. Alors on voit, c'est ce délire qui s'empare de lui. Et sa sœur continue dans cette lettre à sa mère, la dernière qui rapporte vraiment sur sa mort. Il ne prend presque plus rien en fait de nourriture. Et ce qu'il prend, c'est avec une extrême répugnance. Aussi a-t-il la maigreur d'un squelette et le teint d'un cadavre, et tous ses pauvres membres paralysés, mutilés, morts autour de lui. Oh Dieu, quelle pitié! À propos de ta lettre et d'Arthur, maman, ne compte pas du tout sur son argent. Après lui et les frais mortuaires payés, voyages, etc., il faut compter que son avoir reviendra à d'autres. Je suis absolument décidé à respecter ses volontés, et quand même, il n'y aurait que moi seul pour les exécuter. Son argent et ses affaires iront à qui bon lui semble. Ce que j'ai fait pour lui, ce n'était pas par cupidité, c'est parce qu'il est mon frère, et que, abandonné par l'univers entier, je n'ai pas voulu le laisser mourir seul et sans secours. Je lui serai fidèle après sa mort, comme avant. Et ce qu'il m'aura dit de faire de son argent et de ses habits, je le ferai exactement. Quand même, je devrais en souffrir. Que Dieu m'assiste, et toi aussi. Nous avons bien besoin du secours divin. Au revoir, ma chère maman, je t'embrasse de cœur. Isabelle. Et maintenant, voici quelques mots sur Saint Léon le Grand, ce grand pape, qui a été élu en 440. C'est sa fête aujourd'hui. Il était diacre quand il succède à Rome au pape Sixte III. La postérité, spontanément, l'a surnommé le Grand, pour exprimer vraiment le sens historique qu'il a acquis. Léon est en quelque sorte le dernier témoin de la période des pères de l'Église, le dernier témoin de cette Église ancienne. Les derniers pères de l'âge d'or se sont tus. Augustin est mort 10 ans avant son élection, en 430. Cyril d'Alexandrie meurt 4 ans après l'élection de Léon, en 444, après s'être enfoncé d'ailleurs dans le silence. Alors, nous savons peu de choses sur les années qui précèdent son pontificat, ce pape. On ne connaît même pas la date de sa naissance. Il semble être originaire de Toscane. En 430, au moment où Augustin ferme définitivement les yeux à Hippone, Léon fait partie du clergé romain, les diacres, et joue déjà un rôle prépondérant dans la querelle. Entre les partisans et les adversaires d'Augustin, tout ça, ça agite le sud de la Gaule, le sud de la France. Et l'année d'après, Cyril d'Alexandrie lui demande d'intervenir contre les agissements de Juvénal, qui est évêque de Jérusalem. Alors, c'est pour vous dire qu'à l'époque où il devient pape, il y a des troubles dans l'Église, des schismes ou du moins des hérésies de toutes sortes. Et l'élection de Léon sur le siège romain, ça le surprend, alors qu'il est diacre en Gaule. Il était en mission diplomatique pour la cour de Ravenne, l'empereur qui résidait à Ravenne, cette belle ville d'Italie remplie de mosaïques, c'est à visiter. Hein. Il est donc loin de Rome au moment de la mort de Xiste III. Il est élu pape pour lui succéder à la joie de tous. Et là, il y a une légation qui le ramène à Rome. Et le pontificat de Léon s'annonce fructueux. Il va durer très longtemps, 21 ans, de 440 à 461. En somme, 20 années qui sont lourdes d'événements. Et ce pape va être obligé de témoigner d'énormément de courage et d'esprit de décision. Et c'est la caractéristique des grands hommes, de s'élever sans effort, à la hauteur des événements. Hein. Il ne s'agit pas simplement de prévoir, mais il s'agit de dominer les événements. Et même d'infléchir l'histoire jusqu'à un certain point. Alors ce nouveau pape avait une idée très haute de sa mission. La papauté était pour lui héritière de la vieille ville de Rome. Et cet empire romain avait, pour ainsi dire, préparé à l'Église cette universalité. Désormais, le siège de Pierre faisait de Rome le centre de l'Église, la tête de l'univers. Alors, c'était au pape de veiller à toutes les églises qui étaient répandues de l'Orient à l'Occident. Et Léon le Grand trouve non seulement les formules, comme il dit, d'une merveilleuse plénitude pour exprimer cette doctrine, mais il utilise toutes les circonstances, hein, puis il l'affirme. Il est d'abord le pasteur de la ville de Rome, il prêche régulièrement. Il est le premier pape dont les sermons soient parvenus d'ailleurs jusqu'à nous. Il y a de très beaux sermons. Hein. Il cherche à extirper les coutumes païennes, les superstitions et particulièrement l'astrologie. Oui, l'astrologie. Je ne sais pas si on va réussir à extirper ça, l'astrologie. Parce que c'était des choses qui abîmaient l'âme des Romains. Il s'en prend aux hérétiques aussi, aux manichéens, qui sévissent toujours encore à Rome. Hein. Il établit un monastère près de Saint-Pierre de Rome pour le service de Dieu. Et il affirme son autorité. Mais il y a une cassure entre l'Orient et l'Occident, entre Constantinople et Rome. Il est beaucoup question de Constantinople ces jours-ci à cause de la visite du patriarche de Constantinople en France. Dommage que nous soyons séparés. Mais ce pape n'a pas tellement aidé à la compréhension. Et c'est dommage, grandement dommage. Oh, ce n'était pas par méchanceté. Il était humble. Mais il n'a pas su comprendre vraiment. Et il s'adressait davantage à l'empereur de Constantinople qu'au patriarche. Il ne savait pas faire, on dirait, la différence. Il a combattu aussi les Nestoriens, Nestorius, Eutyches. Il a énormément travaillé pour l'unité de l'Église. Mais en même temps, il a fait quelques erreurs. Un concile avait été convoqué à Chalcédoine sur le versant asiatique de la capitale. L'enseignement dogmatique du pape Léon a été solennellement proclamé à cette occasion le 25 octobre 451. Et l'enseignement, c'était pour l'unité de l'Église. L'unité n'est pas rompue avec Constantinople quand même, mais elle tient un peu de choses avec Constantinople. Mais l'unité en dehors de Constantinople est renforcé. Rome est attaqué par Attila. Hein? Et Léon le Grand réussit à l'arrêter. Il se présente devant Attila, qui se rend ailleurs. 3 ans plus tard, il y a Jean Séric aussi, qui succède à Attila, qui veut prendre Rome, mais rentre dans Rome, et le pape obtient qu'il ne brûle et ne détruise rien, et ne tue personne, mais Jean Séric fait un pillage épouvantable de 14 jours dans Rome. Des chariots en fil serré ont apporté les richesses des temples, des églises, des palais. À la fin de son pontificat, Léon Ier, qui n'avait pas voulu reconnaître la primauté de Constantinople, fut obligé de s'en remettre au bras séculier pour lui confier les destinées du concile de Chalcédoine, menacé par les monophysites, hein, qui niait la double nature dans le Christ. Les faits sont parfois plus exigeants, que les prérogatives. Et ce pauvre pape, mêlé à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, est finalement décédé en 461. Et on le fête le 10 novembre. Il a écrit de très, très, très belles choses. Et l'un des plus beaux textes qui soit de lui, c'est que nous serons jugés sur l'amour. Vous savez, on nous dit souvent, « Ah, autrefois, le juge Dieu était un juge horrible. » Dans le cinquième sermon sur pour les collectes de ce pape du cinquième siècle, voici ce qu'il dit. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, sur son trône de gloire, et que toute nation assemblée aura lieu la séparation des bons d'avec les mauvais, » c'est selon l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Hein. Pour quel motif ceux de droite seront-ils félicités, sinon pour leurs œuvres de bonté et de charité? Je continue ce texte de ce pape du 5e siècle. Mais que sera-t-il reproché à ceux de gauche, sinon d'avoir négligé l'amour, de s'être montré inhumainement dur, d'avoir refusé la miséricorde aux pauvres? À l'heure de ce grand et suprême jugement, on estimera tellement et la bonté qui répand ses biens, et l'impiété qui conserve jalousement les siens, que la première étant tenue pour plénitude de toute vertu, et l'autre comme totale de toutes les fautes, les uns se trouveront introduits dans le royaume à cause de cet unique bien, et les autres envoyés au feu éternel à cause de cet unique mal. Donc on sera jugé sur l'amour. C'est ce qu'on enseigne de plus en plus dans l'Église aujourd'hui, dans ce grand et merveilleux nettoyage de la spiritualité chrétienne. Dieu nous habite, il est amour. Vivons avec lui.